RMC, les grandes gueules.
T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé.
Bien connu. Ah là 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 là.
C'est inoubliable ça.
Un grand classique, effectivement. En fait, c'est une espèce de passage au crible et au tamis des revenus des 37 800 foyers français les plus riches, qui sont proportionnellement moins imposés que ceux du reste du pays.
Alors moi, j'ai envie de positiver cette étude déjà parce que ça montre, et c'est une étude très sérieuse de l'Institut des politiques publiques, ça montre que pour 99,9%, finalement, le système fonctionne bien, les gens payent de l'impôt, donc on nous explique toujours que les plus pauvres ne payent jamais d'impôts, tout le monde paye des impôts, parce qu'il y a la CSG aussi, qui est un impôt, hein, même si on n'appelle pas ça un impôt, donc à un moment donné, tout le monde paye de l'impôt sur le revenu. Là où ça pose problème, c'est qu'il y a les 0,1% les plus fortunés, qui voient leur taux d'imposition passer de 46 à 26%, notamment pour les 75 foyers les plus riches, c'est-à-dire que ce sont les gens les plus riches, et ils ne sont imposés qu'à 26%. Alors c'est pas les 2% que ton copain Thomas Porcher et Gabriel Zucman avaient mis en avant, donc c'est pas 2%, mais c'est 26% et 26%.
Mais quand on fait le calcul, regarde.
Alors simplement, voilà. Pourquoi
Gabriel Zucman
arrive...
n'est pas mon copain. Non. J'avais cité, je sais. Je l'ai jamais rencontré, mais.
Non, mais il allait un peu dans ton sens, voilà. Ouais. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'effet pervers de la baisse de l'impôt sur les sociétés.
Ouais.
Et ces gens-là, ces ultra riches comme on les appelle, en fait, ils mettent leur argent dans leur holding, et donc c'est moins imposé que si c'était leur propre revenu. Alors, est-ce qu'il faut corriger cela? Comment on le fait? Visiblement, c'est pas si simple, parce que Macron ne veut pas remettre les impôts, l'impôt sur les sociétés plus haut, parce que c'était toute sa politique. Mais c'est vrai que ça semble quand même injuste que les ultra riches, ils sont pas très nombreux, payent finalement moins que les autres, proportionnellement.
En fait, le problème, c'est que on confond un peu les choses. Parce que quand on dit ça comme ça, on a l'impression que les gens, ils peuvent tirer de l'argent et eux, ils sont pas imposés.
Non, ils sont l'argent, imposés, mais un peu moins que...
Les résultats que tu fais remonter dans ta holding, c'est pas de l'argent que tu as prélevé. Il reste dans la société.
Oui.
Donc c'est ça.
Quand la société t'appartient.
Oui, d'accord, mais tu dis pas.
Tu la transmets à tes enfants, etc.
Je suis d'accord avec toi, mais quelque part, c'est pas de l'argent qui te sert à vivre. C'est aussi de l'argent qui te sert à créer de l'emploi, qui sert à investir dans l'entreprise, qui sert à... Donc c'est ça, faut faire attention. N'importe quel dirigeant d'entreprise, s'il prélève de l'argent sur l'entreprise pour personnellement, il est taxé comme tout le monde. Voire même plus que tout le monde.
Sauf que là, on parle de gens qui ont des dizaines de millions d'euros, voire parfois des milliards. Ils les appellent d'ailleurs les milliardaires.
D'accord, mais.
Oui, mais donc cet argent, qu'est-ce que tu en fais? T'as des milliards.
Tu le mets en action,
tu t'achètes de l'immobilier. D'ailleurs, plus tu deviens riche, moins ta part d'immobilier, c'est-à-dire elle est beaucoup plus faible dans ta fortune. C'est-à-dire que même quand t'as 20 millions d'euros, et on parle pas de ces gens-là, 20 millions d'euros, t'as 80% qui sont des actions, des choses comme ça. Donc là, on voit bien, en fait, qu'il y a un jeu entre ce que tu mets dans ta société pour dire c'est pas ta fortune, mais en fait qui te rapporte plus, mais qui est quand même ta fortune si ta boîte t'appartient, tu vois, de ce que tu vas mettre en dans les marchés financiers en achat d'actions, est-ce que tu vas mettre dans l'immobilier. Et là, en fait, ce qui pointe du doigt, alors tu as raison de le rappeler, on parle vraiment des hyper riches.
Ouais,
on va parler des quelques, allez, on parle d'une quarantaine de familles, on peut même aller plus loin, de 500 familles françaises qui sont très très riches. On parle en fait d'un impôt qui serait régressif sur les très très riches, en fait.
Voilà.
Si on prend les 1% de la population, c'est dans ces 1% de la population les plus riches que là, il y a une régressivité de la fiscalité.
Sur le reste,
il y a une progressivité.
Voilà.
Alors, mais qui mérite quand même un débat. Alors, ça concerne vraiment 99% des gens.
Mais c'est un symbole aussi.
Mais c'est un symbole aussi, effectivement, oui, de voir
que
ça.
Le terme qui me gêne, c'est impôt sur le revenu. On parle pas d'impôt sur le revenu. C'est pas un revenu. Je suis désolé. Moi, par exemple, dans ma société.
Mais il y a un taux d'imposition.
Non, je dis n'importe quoi.
Dans ton revenu global, tu peux mettre quand même plein de choses.
Dans ma société, je vais dire demain, je dis n'importe quoi, je fais un résultat à ce niveau-là, mais mettons, tu fais un résultat de 300 000 euros, je prélève pas, je laisse l'entreprise pour réinvestir. Alors on va dire, oui, mais c'est ton entreprise, donc c'est un revenu. Ben non, je le laisse dans l'entreprise, ça me permet de créer de l'emploi, d'investir, d'acheter du matériel. Enfin, c'est pas la même chose.
Oui, mais là, c'est pas le même cas.
Je suis désolé, un impôt sur le revenu, c'est que si tu prélèves de l'argent, c'est un revenu. Tant que tu le prélèves pas de l'entreprise, c'est pas du revenu. Je suis désolé, tu capitalises, certes, mais à ce moment-là, ça s'appelle l'ISF, c'est plus un impôt sur le revenu. C'est un impôt sur ta fortune, mais c'est pas un impôt sur le revenu.
Il n'y a plus d'ISF.
Mais après,
ce qui est intéressant, c'est justement, je pense que c'est plus la symbolique, parce que si on parle de ces 75 foyers les plus riches, et que finalement le gouvernement a après cette étude-là, réfléchit et se dit, bon, on va rétablir, on les refait passer à 26%, à 46%, parce qu'ils sont passés à 26%. Ça rapporte combien? Je veux dire, c'est plus la symbolique
Il y a quand même une question. Quand tu regardes même ne serait-ce que les 500 familles, quand tu vois que c'est en 10 ans, leur fortune, leur patrimoine a été multiplié par 5, là, tu te dis, il y a un problème, parce que personne n'a eu son patrimoine multiplié par 5 en 10 ans. Donc là cette question doit être c'est pas une question qui va résoudre tout, et non, etc., mais voilà. C'est une question d'équité sociale, justice sociale.
Pas être démagogique. Parce que souvent, on nous explique que grâce à ça, on paye la réforme des retraites, on paye tout.
Mais c'est une vraie question. Je veux dire, et même c'est une vraie question.
Une question de justice et d'égalité.
Je trouve que sur la fiscalité, là, on est en train de payer nos impôts sur le revenu, là, on les a tous déclarés. Et il y a quand même des questions à soulever. Par exemple, vous gagnez 70 000 euros, vous avez un très bon salaire. 70 000 euros, vous gagnez ça. Au-delà de ce que vous allez gagner.
Par mois. Parce qu'un bon salaire, c'est 70 000 par mois.
Ça, c'est Sarah Salman. Elle n'est pas là sur le plateau. Et d'ailleurs, si tu lui poses la question, j'ai vu qu'elle était très fâchée. Elle a quitté le plateau, donc faut pas lui poser cette question-là. Donc,
combien elle touche.
Voilà, combien elle touche, elle est très fâchée. Ouais.
Donc, elle sera là, on lui posera la question.
Vous lui posez la question.
On l'embrasse.
Et on l'embrasse, bien sûr. Donc là, au-delà de 72 000, j'ai pas le chiffre exactement en tête, vous avez un taux marginal à 41%. C'est-à-dire que là, tout ce que vous allez gagner, vous allez être imposé à 41%. Ouais. Et là, vous allez le gagner sur votre travail. Donc quelqu'un qui va faire 100 000 euros, il y a 30 000 euros, quasiment 41% part aux impôts. Très bien. Bah, le problème, c'est que quelqu'un, par exemple, qui va toucher des dividendes, des revenus financiers, là,
pourquoi
il a une flat tax à 30% seulement.
Oui, flat tax, ouais.
Alors pourquoi toi, ton travail doit être plus imposé qu'un mec qui dort et qui touche un revenu où là où il a une flat tax à 30%? Là, c'est un problème de justice fiscale. Et donc ça, il faut le dire.
Oui, je pense que simplement qu'on
un mec comme Mehdi Ghezard qui bosse 24 heures par jour.
36 heures
par nuit. Voilà. Là, il devrait dénoncer ça. Lui, je bosse, je dors 2 heures par nuit. Je fume 3 paquets de cigarettes par jour.
Ça dure jamais.
Dénoncer de cette flat tax qui a imposé moins que son travail.
On reconnaît qu'on était au-dessus de nos voisins européens.
D'accord.
Et que Macron a voulu s'aligner parce qu'il y a une concurrence fiscale sur les voisins européens. On peut reprocher beaucoup de choses à Macron, mais on était plutôt malade.
Regarde ce que tu dis, Olivier.
On est fiers de dire qu'en Europe, la France, c'est le premier pays en termes d'investissement étranger. Mais il y a un moment, il y a une raison. Si tu ne crées pas les conditions, ça n'existe pas.
Il y a des trucs qui a marché quand même.
Ce qui est marrant, c'est que ceux qui touchent des dividendes, ils regardent à l'Ouest, ils disent, eux, ils ont moins, donc baisser les taxes, là, tout le monde accepte. Et puis les travailleurs, pour leur salaire, ils regardent du côté de la Chine. Là, on leur dit, attention, il faut baisser ton salaire parce que c'est moins compétitif qu'un Chinois ou un Roumain.
Le problème qu'on a en France, c'est pas un problème d'imposition. Le problème qu'on a en France, c'est la redistribution des richesses. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant de parler des impôts que tu vas payer, je veux dire, toutes ces grosses fortunes, pourquoi ils sont là? Parce qu'ils peuvent gagner 10 000 fois ce que gagnent leurs salariés. Moi, je veux dire qu'ils sont très loin d'être communistes, mais vraiment très, très loin. Moi, demain, là, les communistes qui voulaient faire voter cette loi de 1 à 20. Moi, chez moi, tu peux faire voter une loi qui dise que tu peux pas faire plus de 1 à 3, ça me gêne pas. J'ai jamais prélevé 3 fois ce que gagnent mes salariés. Donc, quelque part, il est là le problème. Si l'entreprise gagne plein d'argent puis que ça remonte tout à la même personne, il est là. Tu redistribues à tes salariés. Il y a un moment que tout le monde gagne sa vie. Et correctement, quand t'as pris des risques, c'est normal. Mais c'est pas normal que dans une boîte, t'as un mec qui a 1200 balles par mois et quand le patron prend des millions et des millions d'euros.
Ben, je suis d'accord avec Johnny, parce que cet écart-là, il était dans les années 70. On était de 1 à 40. C'est-à-dire que la différence entre le salaire moyen d'une entreprise et le PDG, c'était 1 à 40. Mmh. Aujourd'hui, on est 1 à 200. Aux États-Unis, 1 à 300. C'est-à-dire qu'il y a une partie en haut qui s'envole quand même. Et ça, il faut le dire.
Ça, c'est pas normal. Et c'est ce que les gens supportent plus.
Et je pense qu'aujourd'hui, exactement. Je pense que quand tu viens à salarié, bosse plus. Tu vas avoir ta prime à la fin, tu vas être augmenté de 2%. Le mec, il dit, ouais, bon. Parce qu'il voit les chiffres. Mmh. Quand vous faites vos réunions annuelles, là, tous les ans, il y a un team building. Tu vois les chiffres de la boîte. Quand tu vois les chiffres de la boîte, tu vois combien de rapports, tu vois combien a touché ton boss. C'est difficile de t'investir quand ton boss touche 300 fois plus que toi.
On va passer par le VAR, écouter ce que Jacques a à nous dire. Bonjour Jacques.
Bonjour à tous.
Jacques, est-ce qu'aujourd'hui il faut corriger ces erreurs et taxer les ultra-riches? Alors dites-nous.
C'est même urgent. Écoutez, j'ai une formation comptable. Hein. On va prendre les 3 comptes qui existent en comptabilité. Le bilan, hein, le compte d'exploitation générale, le compte de perte et profit. Eh bien, les actionnaires, on les trouve dans les postes capital. Ça veut dire propriétaire de l'entreprise et il touche des dividendes. Et on le dit productif. Les salariés qui travaillent, qui font le travail, qui font les bénéfices, qui vont permettre de payer les dividendes, on les trouve dans le compte d'exploitation générale à la rubrique des charges d'entreprise.
Ouais.
Ils sont une charge pour l'entreprise. Alors que les actionnaires, ce sont les apporteurs de capitaux. Mais en dehors des capitaux originels, quand il y a des augmentations de capitaux, c'est grâce aux bénéfices de l'entreprise et donc au travail des gens. Je crois qu'il y a un rééquilibrage qu'il faudrait faire. Les gens ne connaissent pas la situation. S'il n'y avait pas les salariés et la politique, j'ai travaillé dans la banque, hein, dans deux banques, le réseau Banque Populaire et le Crédit Mutuel. Hein, et je peux vous assurer que c'est les salariés qui font les résultats d'entreprise et pas les actionnaires.
On est bien d'accord.
Ouais, mais je trouve que les salariés sont mal payés et principalement les moins gradés. Hein.
Oui, mais vous l'avez dit.
Ils sont soumis aux problèmes de difficultés de travail, enfin d'effort, de climat, etc. Ils ont une espérance de vie plus faible. Moi, j'ai 78 ans aujourd'hui. J'étais cadre dans l'entreprise. Ben, je sais pas, j'ai pas de problème de santé. Il me reste encore des années à vivre. Ces gens-là, pour la plupart, ils sont morts déjà. Hein.
Mais Jacques, on est d'accord.
Il faut revoir le système de retraite.
Hein. Non, mais Jacques, on est d'accord, mais moi je trouve que c'est toujours un peu abscon d'opposer actionnaire et salarié, parce qu'on a besoin des deux. Il n'y a pas d'entreprise sans capitaux, et il faut bien quand même, à un moment donné, des actionnaires, de l'argent, etc., pour faire développer, et aussi à la fin payer les salariés. Donc, opposer les deux, ça, c'est vraiment un débat assez manichéen et très français.
C'est
ça.
Pas opposé, c'est
dans les pays anglo-saxons, on n'a pas de débat.
Il faut se dire que quand tu as un résultat dans l'entreprise, la part des dividendes doit pas être exponentielle, alors que la part réservée aux salariés, diminue.
C'est le partage des valeurs.
On est exactement là. Le partage des richesses, c'est là où il faut travailler.
Allez-y, Jacques.
Quand tu travailles sur l'impôt, c'est trop tard. Les distributions sont déjà faites.
Oui, bien sûr.
Allez-y, Jacques.
Je pourrais parler là.
Oui, je vous en prie, Jacques.
Allez-y.
Bien sûr.
Voilà. Eh bien, écoutez, quand j'étais dans une banque, je ne vais pas te dire laquelle, parce que c'est quand même.
Vous l'avez dit.
J'ai appris qu'il y avait des malversations sur des bons de caisse anonymes. Bon, alors, quand je suis revenu, je venais parler au DRAF, qui m'a dit, monsieur Huguet, vous faites ce que vous voulez, moi, je n'en parle pas, parce que vous savez très bien que le responsable de l'agence est le copain du DGA. Hein. Bon, ça m'a travaillé. J'ai été voir le directeur général, je lui ai parlé, je lui ai expliqué ce qui se passait, pas le fait que je l'avais même pas rencontré parce qu'il était au tennis pendant l'après-midi, je veux dire, hein. Mais je lui ai parlé de ce qui se passait parce que c'est des facteurs fiscales qu'on encourait. Et la réponse que j'ai eue au bout de quelques secondes, c'est monsieur Huguet, cette agence est la plus rentable. Voilà, terminé. La discussion. Oui, oui. Et puis j'ai été emmerdé par la suite. Parce que 1 et 1, ça fait pas 2 pour dire qu'on est mal.
Qu'est-ce que vous allez foutre votre nez là-dedans, monsieur Huguet? Monsieur Huguet, il y a un moment, il faut arrêter les conneries.
Il n'écoute pas, là, il est parti.
Non, mais j'entends. Voilà, Jacques dit qu'on protège les puissants, on protège ceux qui font et qui rapportent le pognon. Je remercie Jacques d'avoir été avec nous. Merci Jacques. Passez à bientôt dans les GG. 44% seulement des Français payent l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Et dans ces 4% de Français qui payent l'impôt sur le revenu, quand tu ramasses, tu tombes sur 20% qui en fait payent la masse quasiment de l'impôt sur le revenu. Donc en fait, les ultra-riches y échappent. Car t'as un Français sur deux qui le paye, qui
au milieu.
Et au milieu, t'as encore un quart qui paye pour tous les autres. C'est peut-être globalement.
Alors il y a,
ça qu'il faut revoir.
Oui, mais
généralement.
Je te démontre. Ouais, alors d'accord, mais l'Institut des politiques publiques tord un peu le coup à cette idée reçue, parce que si effectivement ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils ont d'ailleurs été sortis par François Hollande, François Hollande qui avait supprimé une tranche, ils paient quand même pas mal de CSG. Donc à un moment donné. Tout le monde paye sur son revenu. Voilà. Ouais, avec la CSG. En fait, la CSG, c'est un deuxième impôt sur le revenu. Ouais. On ne le dit pas suffisamment.
Oui, mais la CSG, c'est quand même pas grand-chose. Non. Un truc à la fin de l'année.
Bah, t'es à 9% pour ça.
Tu payes que la CSG.
Ils ont réappelé un revenu. Ils ont recalculé une forme de revenu qui n'est pas que le salaire, en fait. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est une progressivité, on le voit bien.
Je trouve que l'Institut, elle montre finalement que c'est assez progressif, sauf effectivement quand on arrive avec les ultra-riches, où tout d'un coup, ça devient régressif. Donc là, il y a un problème.
Oui, mais on fait ça comme si on parlait de gens qui fraudent, ou il n'y a rien d'illégal là-dedans. Je regardais globalement tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on échappe à l'impôt sur le revenu. Tous les dispositifs sont légaux, qui ont tous été mis en place par les pouvoirs publics, par les politiques, que ce soit les niches fiscales pour la classe moyenne. Et il y en a 400. Les dispositifs fiscaux, les holdings et tout ce que tu veux, tout ça, c'est parfaitement légal. Tu vas voir un fiscaliste ou tu vas voir un avocat qui dit voilà monsieur ce qu'on va faire. Surtout, n'oubliez pas de le déclarer quand arrive la déclaration sur le revenu. Et puis au final, tu remercies ton conseiller en disant merci monsieur, vous avez bien fait votre boulot. Je paye moins d'impôts.
Au final, on est quand même le pays le plus imposé d'Europe. C'est-à-dire que on a deux choses. Alors, on a le niveau de dépenses publiques le plus élevé d'Europe, comme on dépense beaucoup, on a aussi besoin de prélever beaucoup. Donc, est-ce qu'on doit
continuer à être les champions d'Europe des prélèvements obligatoires, sachant que on n'arrête pas de se plaindre matin, midi et soir de la mauvaise qualité de nos services publics.
Ah ben voilà, moi je veux bien être le pays où on paye le plus d'impôts, mais je veux savoir ce qu'on en fait et comment on l'utilise. Ah c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois les résultats des éducations nationales, je vais te dire un truc, quand tu regardes tous les classements qu'on a sur nos écoles en France, ça devient catastrophique. Quand on voit les services publics dans l'état où c'est rendu,
quand on voit la justice alors, qui met trois plombs pour rendre.
Donc il y a un moment, j'ai envie de dire, stop, qu'est-ce qu'on fait de cet argent?
Mais je pense que ça vaudrait le coup de tester, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui si demain ont commencé à basculer sur un système à l'américaine pendant 6 mois, t'as beaucoup de gens, je pense, qui demanderaient à revenir.
Je crois que personne demande à basculer. C'est là aussi où on tue le débat. Je crois que il y a les pays du Nord. À mon avis, sont plus un modèle que les Américains pour
les
nous.
Les pays du Nord.
Dans les pays du Nord, il y a une efficacité de la dépense publique. Je suis désolé. On cite quand même la Norvège comme un modèle en termes d'éducation nationale. On cite quand même ces pays-là sur plein de domaines. Donc il y a quand même un modèle d'efficacité de la dépense publique. Voilà, qu'il faut peut-être regarder de près.
Sur les méthodes de l'éducation, le Danemark. Sujet, hein. Mais après, tu regardes par exemple sur les retraites. Ils ont fait une grosse réforme des retraites à points en Suède. T'as pas vu? Il a été interrogé sur BFM, l'ancien. Le mec était en charge, le commissaire, enfin le ministre était en charge de la réforme des retraites, il a dit qu'il a fait son mea culpa. Donc il faut faire attention.
Les Français ne sont pas prêts pour un régime de retraite à point. Hein.
Non, c'est ce qui était prévu au départ.
Sur l'économie.
Oui, c'est ce qui est prévu au départ. D'ailleurs, qui est passé par la loi et qui n'a pas été appliqué.
Il se passe la même chose que comme en Grèce.
Mais il y a
un
raison de dire une chose, c'est-à-dire que tout ça est légal en fait. C'est ça qui est dingue. Et en fait, c'est ça aussi qui embête les Français. C'est que des gens en fait. Qui vont gagner 3, 4 000, 5 000 euros, c'est-à-dire des gens plutôt, allez, on va dire, supérieurs à la classe moyenne, qui gagnent bien leur vie, eux, ils n'ont pas les moyens de se prendre un fiscaliste qui va commencer même à leur dire, écoute, là, prends une femme de ménage, prends un truc, on va faire baisser ta base fiscale. Alors que quand on commence à gagner des sommes énormes, on a les moyens d'optimiser. C'est pas nous qui le faisons nous-mêmes, parce que c'est quand même très difficile. Eh bien, c'est quelqu'un qui le fait, qui optimise, qui
permet de faire. On va continuer d'en discuter avec vous, les amis, dans un instant. Est-ce que, effectivement, il faut revoir le système fiscal, taxer davantage ceux qui gagnent beaucoup? À tout de suite avec les GG au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Zora Bitant, cadre de la fonction publique. Johnny Blanc, qui est avec nous, il est chef d'entreprise dans les Deux-Sèvres. Et puis Thomas Porcher nous accompagne. Thomas Porcher, qui est économiste, professeur d'économie. On parle des impôts, on parle des super riches, des ultra riches, appelez-les comme vous voulez, qui aujourd'hui, proportionnellement, arrivent à payer moins d'impôts quand même qu'un cadre supérieur, simplement si on se fie sur aux tranches, hein, telles qu'elles sont là. Alors, je regardais là, dans les rapports de Jean Pisani-Ferry, qui est un proche de d'Emmanuel Macron d'ailleurs, et qui dit il faudrait de manière symbolique rétablir au moins aujourd'hui un impôt pour les plus fortunés,
l'ISF vert.
Voilà, oui. Et le faire basculer vers l'écologie en disant voilà, ce serait une manière aussi de leur dire, vous pouvez contribuer au partage de la planète, c'est bonne action morale.
C'est vraiment le problème de notre pays. Plutôt de chercher où est la racine du mal, on punit tout de suite, tu vois, c'est la punition. Moi, je préférais, comme je disais tout à l'heure, qu'on réfléchisse sur comment on redistribue l'argent de façon à ce que ces gens-là ne puissent plus devenir les hommes les plus riches de la planète. C'est ça qu'il faut changer. C'est pas l'impôt.
Après, cette question de la taxation des très riches, là, elle est dans toute l'Europe. Hein. Je veux dire, quand t'as l'économiste en chef de la BCE qui dit qu'il va falloir trouver des ressources et donc taxer les plus riches, c'est-à-dire c'est un phénomène maintenant assez mondial. Même aux États-Unis, ils y pensent.
Un nouveau partage.
Voilà. Enfin, je veux dire, tout le monde revoit les années 50-70 où il y avait une taxation beaucoup plus forte, une pression fiscale beaucoup plus forte sur les plus riches, et se dit finalement, est-ce que ça fonctionnait pas mieux? Et donc, c'est pas que franco-français. Ça, il faut le dire, c'est un truc qui traverse les frontières.
Mais l'ISF, le problème, c'est que en France, on est quand même dans l'instabilité fiscale. C'est-à-dire qu'un président arrive, il supprime l'ISF. Enfin, quoi que Emmanuel Macron ne l'a pas supprimé, il l'a transformé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ISF pour ceux qui ont du patrimoine immobilier. Ouais. En revanche,
les plus pauvres des riches.
Les plus pauvres des riches, en quelque sorte. Hein, même certains se retrouvent riches alors qu'ils n'ont qu'un appartement à Lille de Ré ou à Paris.
C'est ça.
Ou une maison à Lille de Ré plutôt. Et il a supprimé pour les autres.
C'est ça qui est dingue.
Comme diraient certains, pour ses amis banquiers et actionnaires. Mais là, tout d'un coup, on nous dit, mais il faut rétablir l'ISF. Et on ne peut pas non plus tous les 5 ans changer la règle du jeu. À un moment donné, il faut une espèce de stabilité fiscale.
C'est ce qu'on demande quand tu es chez l'entreprise. Ce que tu demandes avant tout, c'est qu'il y ait une lisibilité assez loin. Parce qu'en fin de compte, le problème, c'est quand on change les règles du jeu tous les 10 minutes. On dit que gérer, c'est prévoir. Pour prévoir, faut que
mais c'est le problème de la gouvernance en étant visionnaire. En fait, c'est récurrent dans notre pays. Les présidents sont là pour 5 ans, voire parfois moins, d'année en année. C'est-à-dire qu'ils prennent des dispositions qui ont vocation à faire effet sur 1 an, 2 ans. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision, parce que s'il y avait des visions à long terme, et ça a existé, comment tu peux te projeter sur les 10, 20, 30 ans à venir? Là, on le fait un peu sur le climat, l'écologie, etc., parce que il y a urgence et parce que là, tout le monde est concerné.
Et puis c'est mondial.
C'est mondial. Mais c'est vrai que sur les réformes et sur les mesures, on prend par exemple la réforme des retraites, on remet ça dans quelques années, puisque de toute façon, il y a encore plein de trous dans la raquette.
Parce qu'il y a un manque de courage politique aussi.
Il y a plein de choses qui ne sont pas réglées, donc on y va.
Et ça, avec le quinquennat, n'a rien arrangé dans tout ça. Hein.
Nous sommes avec Eric. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez choisi votre camp, Eric. Oui, on en remet une petite couche, là, un petit prélèvement pour les ultra-riches ou pas?
Oui, mais pas du tout de la même façon dont ça a été avancé pour le moment, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la flat tax, elle sert à énormément de petites entreprises qui payent déjà beaucoup d'impôts. Ouais. Et en plus, ce n'est pas comptabilisé pour la retraite. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, c'est-à-dire que soit vous prenez une prime et vous comptabilisez pour la retraite, et dans ce cas-là, vous allez être taxé à l'impôt sur le revenu, donc 40-42%, parce que c'est à peu près les montants que moi je paye, parce que je vis plutôt bien. Par contre, lorsqu'on prend une flat tax, c'est 30% payés par la société, mais qui ne sont pas comptabilisés pour la retraite. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, parce que vous parlez de 300, 400 fois le salaire minimum, mais vous êtes en dehors des clous, vous parlez de 15, 20, 30 grosses sociétés ou 50, peu importe, mais 80% de l'économie française, elle est tenue par des PME, qui se lèvent tous les matins et qui se couchent tard le soir parce qu'ils taffent, ils sont au taf, point barre. Et ce qui se passe, c'est évidemment... c'est que lorsque vous travaillez pendant 20, 30 ans et que vous payez 42% d'impôts et que vous payez encore des impôts sur les sociétés, etc., le jour où vous vendez la boîte, vous ne faites plus aucune rentrée d'argent. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens créent des holdings pour pouvoir remonter l'argent sur la holding pour ensuite... Il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y a plus de salaire. Donc, la holding va créer un salaire avec ses 30% de flat tax. Mais ça ne comptabilise pas sur la retraite. Ça n'empêche pas de devoir se faire un salaire si on veut comptabiliser des choses pour la retraite. Mmh. Donc, cette solution-là, qui a été créée par Macron, est une très bonne solution pour 80% des PME qui sont des bosseurs, qui essayent, qui souvent, d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, ont des salaires qui sont inférieurs à leurs meilleurs salariés, sauf qu'ils se récupèrent un petit peu avec ça en fin d'année.
Attention, ne touchons pas ce système. Oublié quand même que par exemple tu prends des gens comme nous effectivement qui payons 41% d'impôts. Moi quand je vois ce que la retraite me propose, j'ai reçu le courrier l'an dernier, on me propose 1 200 € par mois. Hein.
Non.
Mais bien sûr que si t'as pas fait de retraite complémentaire, que tu t'es pas occupé de tes affaires personnelles, ce qui est mon cas, parce que j'ai pas fait attention et puis ça m'intéressait pas parce que je pensais qu'à l'entreprise et j'ai toujours tout réinvesti dedans. Eh ben n'empêche qu'à la fin j'ai 1 200 balles par mois.
Alors c'est l'entreprise.
Ah ben si. Oui, mais j'ai encore pris
moins sur ton entreprise.
Ben, l'entreprise, oui, sauf que moi, c'est mes enfants qui reprennent, donc je vais pas les massacrer non plus pour reprendre, je perds l'argent. Donc, effectivement, peut-être que la solution, c'est de
créer des Eric.
Et d'en faire
monter. De regarder, c'est que là, effectivement, ce que dit monsieur, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que lorsque vous vendez votre entreprise, vous rentrez de l'argent. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que pendant 20 ans, le gars, il a trimé avec 1000 balles par mois, 1200 balles par mois, ou 1500 balles par mois. Il a mis de côté un peu la vie familiale. Ce sont des choix, hein. Je le critique pas.
Bien sûr.
C'est des choix personnels. Mais sauf qu'il n'a pas cotisé comme basé sur un salaire de 10 000 balles par mois pour la retraite. Ça, il s'est fait ça une fois que sa société, elle a commencé à créer de l'emploi, à s'enrichir un petit peu et à créer de l'argent. On voit toujours la frise qui est sur le gâteau. On juge les gens par rapport à leur voiture, on juge les gens par rapport à ce qu'ils ont, sauf qu'ils ont oublié les 20 ans ou 30 ans passés derrière.
Attendez, Eric, si je peux me permettre, je suis d'accord avec vous et je ne vous contredis pas, mais là, vous déplacez le sujet, vous déplacez le débat.
Non.
Non, si vous le déplacez, parce que là, effectivement, on parle d'une petite partie des entreprises. On peut parler même du CAC 40, mais le CAC 40 reste quand même une entreprise qui crée, reste quand même les 40 premières entreprises qui créent énormément de richesses, qui emploient quand même une grosse partie des salariés, parce que certes, c'est une
etc.,
qui dépendent de ça, et que ces 40 entreprises, par exemple, elles aient 1200 filiales dans les paradis fiscaux, il faut se poser les questions. C'est-à-dire que là, on parle pas de vous, en fait, on parle pas des PME. Vous savez, c'est Eric, un dernier exemple. la flat tax, je suis d'accord avec vous, mais je sais pas, après, dans les volumes d'argent, la flat tax, elle concerne beaucoup plus les volumes d'argent que nous avons perdu, les grosses entreprises. C'est comme le CICE. Quand Macron, il a mis en avant le CICE, non, quand il était ministre de l'économie, ministre de l'économie, ou Hollande, ils nous ont dit, ça va servir les PME. Mais je suis d'accord avec vous, mais on a vu aujourd'hui les montants. Les montants perdus, ils ont été dans les grandes entreprises qui l'ont beaucoup plus habilement utilisé que les PME. Donc qu'est-ce qu'aurait dû faire le gouvernement? Il aurait peut-être dû faire comme aux États-Unis, un Small Business Act, c'est-à-dire quelque chose qui concernait que les petites entreprises. Là, peut-être on peut parler de flat tax pour eux, peut-être on peut parler de CICE.
Oui, mais si tu remets en cause le système de flat tax, tu vas pénaliser les PME.
Allez-y, Eric.
Non, mais je vous ai dit en introduction que j'étais pour.
Bien sûr.
Parce qu'effectivement, le système est mal foutu. Donc effectivement, il y a un moment donné, lorsque vous êtes une très grosse entreprise, et là on parle de 20% de l'économie française, bon d'abord il faut prendre en considération quand même qu'en général, ils ont la moitié, trois quarts, voire 80% du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. Hein.
Oui.
Donc ça c'est une chose. Maintenant, que ce soit le CICE ou la flat tax sur ce genre de société, effectivement, on arrive dans les excès, dans les abus d'un système qui est mal foutu.
Mais on peut pas, j'imagine, c'est pas légal de mettre une flat tax uniquement
si tu peux le faire. Le problème, c'est qu'on va encore tomber dans ces effets de seuil à la française, où pour 200 balles, tu bascules de l'autre côté. Alors donc, t'arrêtes de développer ta boîte parce que, comme en France, tu veux surtout pas passer à plus de 50 salariés parce qu'autrement, tu te fais massacrer. C'est nul, ça.
Eric, je vous remercie d'avoir été avec nous. Eric. Vous nous appelez d'où, Eric?
Lyon.
Mon cher Eric, vous connaissez la brasserie Le Rep?
Oui, de nom, oui.
Ouais, de nom. Eh ben parce que Vincent Moscato sera là-bas cet après-midi avec toute l'équipe du Super Moscato Show. Ils seront en direct.
15 ans.
C'est le Tour de France, voilà, de toute la bande à Moscato. C'est dans le deuxième arrondissement. C'est la brasserie Le Rep. Les Lyonnais la connaissent. Donc allez voir la bande à Moscato tout à l'heure à partir de 15h en direct de Lyon. Merci Eric. David va conclure la discussion. On va aller du côté de Bordeaux. Bonjour David.
Bonjour les GG.
Alors,
bonjour
David. Quelle est votre opinion là sur cette discussion alors David?
Alors, il y a deux niveaux, parce qu'on parle des deux extrêmes. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait, parce que c'est purement factuel, de dire que une minorité aujourd'hui paye l'impôt sur le revenu. C'est passé, hein, si je ne m'abuse, vous disiez tout à l'heure 44%. Sous Hollande, on était encore, je crois, au-dessus des 50, à 52. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que, et ça a une incidence également sur l'intégration et le fait que la population aujourd'hui, 56% de la population ne paye pas sur le revenu. Pourquoi ces gens-là s'intéresseraient à l'argent public? Ils ne payent pas un impôt direct. Effectivement, ils le payent au niveau de la CSG indirect. Mais je pense
TVA, etc.
TVA, qui est le premier impôt français.
Oui, et puis sûrement la taxe d'habitation.
Non, mais il y a un problème. Vous avez raison du consentement à l'impôt, de l'implication, parce que ça crée aussi de la rancœur de la part de ceux qui ont l'impression de tout payer, l'impôt sur le revenu, etc. Qui disent bon, moi je paye tout, j'ai droit à rien quand il y a des aides, et en plus certains semblent entre guillemets profiter du système.
Ouais, voilà. Classe moyenne.
Tout à fait. Donc simplement le fait de payer ne serait-ce que, alors effectivement moins de CSG, moins de charges, mais payer moins d'impôts, plus d'impôts, ça effectivement permettrait de changer tout ce système. Pour les ultra riches, alors ça c'est encore un autre débat, mais pour les ultra riches, effectivement, ce serait totalement démago de les taxer encore plus. Je parle d'un niveau franco-français. Je pense que la solution, ce serait en tout cas un accord européen, parce que quand on est ultra riche, par définition, on peut aller
où on veut. C'est la position d'Emmanuel Macron, ça.
Exactement,
mais ça à l'échelle européenne, sinon ça sert à rien.
Mais ça marche pas. Tu vois bien, regarde, pendant un temps, les Irlandais, je veux dire, on faisait tout pour attirer les entreprises chez eux parce qu'ils payaient pas d'impôts.
Mais il y a quand même, c'est des débats qui traversent l'opinion, enfin les sociétés allemandes, espagnoles, italiennes. Ouais. Alors tout le monde a ces mêmes débats.
Merci David. David, lui dit, il faudrait le faire à l'échelle européenne. On va regarder. On a posé la question. Taxer oui ou non les ultra riches. Je pense qu'il y aura pas de débat sur le. 65-34.
C'est pas un raz-de-marée, hein.